mes frères en Allah, donc il y a le frère Cheikhouna Zakaria qui arrive, il va pas tarder. Donc pour vous faire patienter encore quelques secondes, donc je rappelle simplement que nous sommes en direct de la mosquée, de la mosquée donc Abu Bakr Siddiq, donc créée en 1987 sur le 3 place Federbe. Nous avons le 5 place Federbe et nous avons inchallah aujourd'hui le 1 place Federbe. Donc c'est la mosquée qui s'agrandit inchallah. Et nous sommes aussi en direct de Pastel FM, donc la radio qui permet justement de retransmettre, inshallah, la conférence de Cheikhouna, ce qui permettra à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, soit qui sont loin de la mosquée, parce que, inshallah, on sait qu'il y a des frères de Valenciennes qui nous ont envoyé des mails en disant qu'effectivement, nous ne pouvons pas nous déplacer, mais on vous écoutera par le biais de Pastel FM. Donc je leur donne un grand salut de la part de la mosquée de Roubaix, inshallah. Je voulais remercier un peu toutes les têtes que je connais qui représentent un peu les mosquées de Roubaix, inshallah. Il y a Cheikh Youssouf de la mosquée Rahma que j'ai vu quelque part là-bas au bout. J'ai vu Hassan et Kusen, donc qui est aussi présent ici, aussi à la mosquée ici, Barakallahu Fekoum. Je remercie tous les frères ici présents, les frères que je connais et que je ne connais pas. Vous êtes mes frères en Allah et je vous aime en Allah. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes, parce qu'on a aussi nos sœurs et nos mères qui participent donc à cette conférence. Je voulais simplement rappeler à nos frères qui sont ici présents, les habitués et non habitués, que la mosquée, je profite encore qu'on est sur Pastel FM pour lancer une collecte, hein, on est toujours à la recherche de fonds justement pour améliorer inchallah encore de mieux en mieux la mosquée. Nous sommes arrivés il y a 3 ans dans le groupe de la mosquée et on a voulu cette année mettre un point sur les conférences. On s'est dit qu'effectivement à Roubaix il n'y a plus ou moins de conférences qu'avant. Donc la mosquée, elle essaye de s'inscrire dans cette lignée, de telle manière que nos frères francophones, et moi-même le premier, qui comprend 10 voire 15% de l'arabe, donc pour que nos amis et nos frères francophones puissent avoir aussi à leur portée à la mosquée des personnes qui parlent le français et qui traduisent donc avec eux. C'est des savants. Donc c'est des savants qui viennent, qui ont appris. Donc nous, on essaye au maximum de ramener des personnes francophones. Si ça aurait été en arabe, alhamdoulilah, on a notre imam qui est masha'Allah. Donc c'est vrai qu'on a un imam, malheureusement aujourd'hui, qui ne parle pas le français, en espérant qu'il va apprendre. Et inshallah, on pourra faire des conférences avec l'imam, inshallah. Donc vraiment, vous êtes les bienvenus à la mosquée Abu Bakr. Je remercie tous les imams qu'ils ont. Il y a Ahmed Mektar aussi, je ne sais pas s'il est présent, je l'ai eu au téléphone. Donc il a retransmis au Jumu'ah aussi l'info de la mosquée Abu Bakr. Le Majid al-Rahma de Trois Ponts, le Majid Bilal de l'Épeul qu'ils ont transmis, le Majid Da'wa, le Majid Sunna. Donc ça veut dire que, alhamdoulilah, à Roubaix, on commence à se fédérer, on devient, excusez-moi du terme, un poids, électoral ou non. Chacun le pense comme il le veut, mais on devient un poids. Donc, alhamdoulilah, les musulmans à Roubaix commencent à s'organiser. On commence à devenir vraiment des frères en Allah, de plus des frères de nationalité ou des frères de sang ou des frères de culture. On est des frères en Dieu. Donc, alhamdoulilah, en espérant que la prochaine conférence se fera le Majid al-Rahma ou le Majid al-Bilal, ça c'est déjà vu. Donc, en espérant que le Majid al-Rahma fasse une prochaine conférence dans son lieu, de telle manière que les frères d'Abu Bakr rendent visite à nos frères de le Majid al-Rahma, inshallah. Donc je voulais encore une fois vous remercier et je vais laisser aux auditeurs et auditrices, parce qu'ils nous écoutent, ils ont besoin aussi d'une petite pause, et je demanderai à Hassan dans la foulée s'il peut venir nous dire un petit mot un peu sur sa mosquée et tout ce qu'il entreprend comme conférence, inshallah.
Shukran, Rachid. Salamu alaikum wa rahmatullah. C'est toi que nous remercions, Rachid, hein, et les responsables de la mosquée Abu Bakr, qui nous ont permis d'être présents aujourd'hui dans cette demeure parmi les nombreuses demeures de Dieu. Tfaddal ammi. Allah yahfadhak ammi. Jazakallahu khairan. Remercie aussi Faisal qui nous a permis d'écouter la parole de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est demandé aux musulmans lorsqu'ils récitent le Coran de bien le réciter, voire même de le chanter. Et je veux raconter 3 histoires pour nous inciter, inshallah, à écouter le Coran et à réagir comme réagissaient nos ancêtres pieux, les salafs salih, radiallahu anhum. La première histoire, c'est l'histoire de Abu Hazim, qui a connu les compagnons sahaba, c'est un tabi'i. Abu Hazim, un jour, il est chez lui à la maison, il lit le Coran. Et ça, c'est une sunna de nos salafs salih, lire le Coran à la maison. Car une maison, une demeure, dans laquelle le Coran n'est pas lu, n'est pas récité, est considérée comme... On dit aujourd'hui une maison hantée, Kalbeit al-Kharib. un cimetière, une maison qui fait peur, une maison où les diables sont présents et les anges sont absents. Ainsi Abu Hazim lisait le Coran chez lui et il est arrivé un verset du Coran qui dit بَلْ بَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُ. Et quand il a lu ce verset, il s'est arrêté, il s'est mis à pleurer. Mais il n'a pas pleuré comme d'habitude. Il est tombé en sanglots. Si bien qu'il a failli s'étouffer et il n'a pas pu s'arrêter et sa femme a pris peur. Elle a dit, mon Dieu, il va mourir. Et Abu Hazim, au lieu de se calmer, ses pleurs augmentent. Et il pleure, et il pleure, et il pleure sans s'arrêter. Et son épouse a peur. Elle dit, mon Dieu, il va mourir. Elle envoie ses enfants appeler son meilleur ami, qui s'appelle Muhammad ibn al-Munkadir, radiyallahu anhu, qui lui aussi est un tabi'i, un élève des compagnons et un homme pieux et saint. Muhammad ibn al-Munkadir arrive en courant. Et la femme d'Abu Hazim lui dit, « Adrik Akhak, vite, sauve ton frère. » Depuis tout à l'heure, il n'a cessé de pleurer en sanglots. Ce n'est pas des pleurs légers, ce sont des pleurs profonds qui sortent du cœur et de ses tripes. « S'il te plaît, calme-le, parce que on a peur de le perdre. » Qu'est-ce que fait Muhammad ibn al-Munkadir? Il interpelle son frère Abu Hazim, il lui dit, « Hawin alayk. » Doucement, regarde dans quel état sont ta femme et tes enfants. Qu'as-tu ? Il lui a dit, j'ai lu ce verset du Coran et je crois que ce verset parle de moi. Vous savez qu'est-ce que dit le verset ? Et ça c'est notre gros problème, nous qui ne comprenons pas l'arabe. Si on entend le Coran et on ne comprend pas ce que Dieu nous dit, et on a du mal à réagir et on a du mal à changer. Parce que c'est un dialogue de sourds entre Dieu et nous. Dieu nous parle et nous on n'entend pas. Parce que peut-être qu'on ne fait pas assez d'efforts pour comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Abu Hazim, radiallahu anhu, n'a pas pu s'arrêter de pleurer si bien qu'il a fait peur à sa femme et à ses enfants? C'est ce verset du Coran. Vous savez ce qu'il veut dire ce verset du Coran? Il veut dire que le jour de la résurrection, il y a des gens qui vont avoir des surprises. Ils pensaient qu'ils allaient s'en sortir là-haut, et quand ils arriveront devant Dieu, ils auront des surprises. Ma lam yakunu yahtasibu. Ils pensaient que leur prière était valable et correcte, leur jeûne de même, leur pèlerinage, et quand ils arrivent devant Dieu, tout tombe à l'eau, Dieu n'accepte rien, Dieu n'a rien retenu. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu n'accepte les actes que de ceux qui sont pieux. Vous savez, Muhammad ibn al-Munkadir, qui est venu calmer Abu Hazim, quand il a entendu le verset, quand il a vu ce qui a fait pleurer son frère Abu Hazim, vous savez ce qu'a fait Muhammad ibn al-Munkadir? Lui aussi, il est tombé en sanglots. Et il s'est mis à pleurer plus que Abu Hazim. Et la femme d'Abu Hazim dit, je t'ai ramené pour le calmer, pour le faire taire, et tu as aggravé la situation. Que Dieu vous guide. Vous avez transformé notre vie, nous, les femmes et les enfants, en quoi? En moment de tristesse. Car Muhammad ibn al-Munkadir et Abu Hazim étaient des gens pieux qui avaient souvent à la tête la peur de l'enfer, etc. Ça, c'est la première histoire. Regardez comment les salafs salih réagissaient en écoutant le Coran. Et si elles réagissaient comme ça, c'est parce que le récepteur était pur, c'est parce qu'il comprenait ce que Dieu disait. La deuxième histoire, c'est celle de Al-Fudayl ibn Ayyad, Abid al-Haramayn, radiallahu anhu, le dévot des deux lieux saints. C'est pas n'importe qui, Al-Fudayl ibn Ayyad. Vous savez, c'était qui? Al-Fudayl ibn Ayyad n'était pas un homme pieux au début de sa vie. C'était un musulman comme nous. Hein? Un coup, il marche droit, un coup, il s'égare. Beaucoup de distractions, beaucoup d'ignorance, beaucoup de péchés. Shaitan avait plus ou moins le dessus sur lui. Et un jour, ouvrez vos oreilles, regardez la puissance du Coran. Al-Fudayl ibn Ayyad s'apprête à entrer dans la demeure de quelqu'un pour emprunter ce qui ne lui appartient pas. Et quand il s'approche de la pièce, il entend le propriétaire de la maison qui récite le Coran et qui récite un verset du Coran qui dit Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le temps n'est-il pas arrivé aux croyants de craindre Dieu? Allez, ça suffit, on a assez déconné. C'est le moment de quoi? D'arrêter, de revenir sur le chemin droit, et lorsqu'on écoute le Coran, de réagir en ayant peur des avertissements qui sont dans le Coran. El-Fudayl, quand il a entendu ce verset, il a compris, c'est un arabophone, il l'a compris. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, Bala, oui ya Allah, c'est le moment pour moi d'avoir peur de toi. Il a fait demi-tour, et depuis ce jour-là, il s'est arrêté de zigzaguer, et il est devenu un des plus grands parmi les dévots de cette communauté. Si bien qu'on le surnomme Abidul Haramain, le dévot des deux lieux saints de la Mecque et de Médine. Mais ce qui est le plus étonnant, ce n'est pas le Fudayl. Sa vie a changé quand il a entendu un verset, pas deux, hein. Wahid. Il a entendu un verset, ça lui a retourné le cœur et le cerveau. Et il a marché droit. Mais le plus étonnant, c'est pas lui, c'est son fils, Ali ibn al-Fudayl. Il était plus pieux que son père. Il avait encore plus peur de Dieu que son père. Et un jour, al-Fudayl fait l'imam, ici, dans le mihrab. Il dit, Allahu Akbar. Il récite la Fatiha. Et il se met à réciter une sourate du Coran qu'on connaît tous. Vous savez c'est quelle sourate? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum al-takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Yani le Coran, celui qui comprend, il fait frémir, il fait trembler. Vous savez ce qui s'est passé? Al-Fudayl récite la sourate dans la prière et il y a quelqu'un derrière qui tombe évanoui. C'est qui? C'est son fils. Son fils Ali, il était dans la mosquée, il était en train de prier derrière son père, il a entendu cette sourate, il n'a pas résisté au choc spirituel. Cette sourate-là fait trembler, l'a déstabilisé, il est tombé. Quand la prière fut terminée, le père va vers son fils naturellement. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, malheur à vous, pourquoi vous ne m'avez pas dit que mon fils était là? Pourquoi vous ne m'avez pas dit que mon fils il était dans la mosquée? Car si je savais qu'il était là, je n'aurais pas récité cette sourate. Car mon fils ne résiste pas quand il entend des sourates qui parlent de l'enfer. Vous savez ce qui s'est passé? Al-Fudayl s'est penché sur son fils, il lui a parlé. Et il lui a dit que Dieu te fasse miséricorde, mon fils, tu es pour moi un rappel. Allez, c'est toi qui m'aides à avoir peur d'Allah, il lui a dit. Ben, vous savez ce qu'a fait Al-Fudayl? Quelques instants plus tard, il a dit, mettez-vous debout, on va enterrer mon fils. Ils l'ont lavé, ils l'ont enterré, il est mort. Un verset du Coran l'a tué, le fils de Al-Fudayl ibn Uyayd. Un verset. Parce qu'il comprenait. Vous entendez? Leur cœur était réceptif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est sahih rapporté par Al-Bukhari. Il interpelle un de ses compagnons et pas n'importe lequel. Abdullah ibn Abbas. Turjuman al-Qur'an. L'exégète par excellence du Coran. Il lui dit, ya Abdullah, récite-moi le Coran. Récite-moi du Coran. Abdullah ibn Abbas, étonné, lui dit, ya Rasulullah, tu veux que je te récite du Coran alors que tu le reçois, tu l'entends de la bouche de Jibril? Il a dit, j'aime bien lorsque je l'entends de la bouche des êtres humains. Et Abdullah s'est mis à lui réciter surat al-Nisa, les femmes, jusqu'à ce qu'il arrive à un verset du Coran qui dit, wa kayfa. Et quand sera-t-il le jour où tu seras témoin de ta communauté? J'ai'na bika ala ha'ulai shuhada. Abdullah a dit, je me suis retourné et j'ai vu le prophète qui pleurait, sallallahu alayhi wa sallam. Ses yeux coulaient. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprenait le Coran.
Et le Coran a eu un impact sur lui. Et il aimait l'écouter, il aimait l'entendre de la bouche de qui ? De ceux qui le récitaient et qui le récitaient bien. C'est pour cela, Allah ybarak fikoum, purifiez vos oreilles. N'écoutez pas n'importe quoi, car l'oreille est un vecteur qui transmet des ondes à l'âme. Soit ce sont des ondes négatives qui passent par l'oreille qui vont polluer notre âme, ou soit ce sont des ondes positives qui passent par notre oreille et qui purifient notre âme. Nous, on passe notre temps à écouter la musique. Et la musique, ça tue l'âme. On passe notre temps à regarder la télé, à écouter n'importe quoi à la télé. Et on trouve du plaisir à rester 2 heures à regarder un match de foot. Et je ne vous parle pas des commentaires. Ça vole bas. Alors qu'on ne résiste pas 2 heures à écouter le Coran ou à lire le Coran. Comment voulez-vous que notre âme, après, soit aussi sensible au Coran, puisque 2 heures de musique, 2 heures de commentaires bêtes et stupides font de nous des patients et des résistants. On tient, on résiste, on ne se lasse pas. Et le Coran, on ne lui résiste pas. 10 minutes et on est fatigué, on n'en veut plus. C'est normal que le Coran après n'ait pas d'impact sur nous comme il avait un impact sur Abu Hazim, Muhammad ibn al-Munkadir, Al-Fudayl ibn Uyyad, Ali ibn al-Fudayl, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les salafs salih. Wa barakallahu fikoum, excusez-moi. Je laisse la parole au vrai savant, à notre cheikh Zakaria. Il n'est plus à présenter, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il est algérien d'origine, parce qu'il est né en Algérie, c'est son destin. Mais sa demeure, c'est là où sont les musulmans. Et il est partout où il peut être utile pour cette communauté et pour l'humanité. Il a étudié, il a eu la chance en Égypte, auprès des très grands savants de notre communauté, dans la grande université d'Al-Azhar et dans les mosquées d'Égypte où sont dispensés les cours à des gens qui veulent apprendre et qui veulent évoluer. Vous allez écouter de sa bouche, Inch'Allah, ce qui vous sera utile, ce qui nous sera utile sur terre et dans l'au-delà. Barakallahu fikoum.
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات أحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأثني الخير كله عليه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد آخر إرسال السماء إلى الأرض ولسان الصدق المبلغ عن الحق مراده من الخلق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers musulmans, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La question qui m'a été posée par nos frères pour qu'elle soit le thème de cette rencontre est la suivante. Pourquoi l'homme a-t-il été créé ? La réponse nous vient du Coran. Car le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Dieu le Créateur qui sait réellement pourquoi l'homme a été créé. Dans un verset de Sourate Dhariyat, Dieu dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَعِمُونَ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين je n'ai créé les invisibles, les djinns, c'est les êtres invisibles qui nous sont cachés, ou l'ins, les humains, que pour m'adorer. Illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Je ne veux d'eux aucune substance ou aucune nourriture, aucune alimentation. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se suffit par lui-même. Donc, Dieu veut qu'on l'adore. C'est la raison pour laquelle il nous a créés. D'où l'importance de comprendre que signifie l'adoration de Dieu. Car souvent, on pense être des bons adorateurs de Dieu. On ne répond pas à l'image voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers de Dieu ont eu comme fonction de rappeler les gens à cette finalité de l'existence. Pourquoi ? Nous sommes créés. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Je n'ai envoyé de messagers avant toi, si ce n'est pour leur révéler qu'il n'y a de Dieu que moi, adorez-moi. Donc c'est un message qui ne concerne pas le livre dernier, c'est-à-dire le Coran, le message final, mais on le trouve dans tous les livres envoyés par Dieu, tous les messages envoyés par Dieu, de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adorer Dieu veut dire se soumettre totalement à Dieu, avec une volonté de le satisfaire. On peut se soumettre à Dieu, mais sans avoir cette intention de le satisfaire. Toute créature est soumise à Dieu, malgré elle, puisqu'elle subit les décisions divines. Elle subit ce que Dieu a décidé. Lorsque Dieu a décidé que toute créature, que tout être humain finira, qu'il va mourir, personne ne peut faire face à cette décision divine. Donc il est soumis, malgré lui, à Dieu. Lorsque Dieu décide de ta couleur, tu ne peux pas avoir une autre couleur. Lorsque Dieu décide où tu nais, tu n'as pas où tu meurs. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrise. C'est une sorte de soumission obligée. Mais l'adoration voulue, c'est se soumettre volontairement à Dieu, et uniquement à Dieu. Il n'accepte pas qu'on lui associe autrui. Il est l'unique, et il n'accepte qu'une adoration qui lui est adressé à lui et à lui seul. D'où, lorsque l'individu veut réaliser ce devoir qui est l'adoration de Dieu, il faut qu'il essaye de plaire à Dieu. Ce n'est pas uniquement de s'acquitter de son devoir, de ne pas dire, par exemple, je vais prier, puisque cette adoration va se manifester, s'exprimer par des pratiques, par, il faut lui donner un sens. Ce sens, c'est le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le modèle à suivre. Et donc, ces pratiques ne valent pas grand-chose si l'individu ne les fait pas avec amour, avec cette intention de plaire et satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te lever pour prier, mais uniquement pour t'acquitter de cette obligation. Ton cœur ne cherche pas à plaire à Dieu. Donc, ça devient que des mouvements que tu es en train de faire. La récompense est liée à la deuxième condition, de vouloir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu as fait l'adoration, voulu, dans un certain niveau, pas dans sa totalité. Pour atteindre la totalité, tu dois chercher à plaire à Dieu. D'où l'importance de l'acte du cœur dans l'adoration. Nos savants nous disent, il y a deux sortes d'actes. Il y a les actes du cœur et il y a les actes des autres membres, des autres organes, des yeux, par le regard, la vue, des oreilles, par l'ouïe, de la langue, par la parole, la main, parce qu'elle entretient, et ainsi de suite, les pieds, tout le ventre, tout organe a son adoration. Mais le cœur est au centre de l'adoration. Car lorsque on s'adresse à Dieu, on s'adresse tout d'abord avec notre cœur. C'est le moteur de cette satisfaction. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il y a dans le corps une mâchure, mudra, comme quelque chose qu'on a mâché. إذا صلحت, lorsqu'elle est bonne, tout le corps devient bon. Et lorsqu'elle est mauvaise, tout le corps devient mauvais. C'est le cœur. Donc il met l'accent sur l'importance de l'acte du cœur. D'où la règle tirée par tous les savants musulmans, et en particulier les juristes, lorsqu'ils nous disent « عَمَلُ الْقَلْبِ أَهَمُّ مِنْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ » وتحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا. Et l'acte du cœur est plus important que l'acte du reste des membres du corps, mais chercher la perfection dans les deux, c'est-à-dire l'acte du cœur et l'acte du reste du corps, est réclamé religieusement et voulu par Dieu. Tu dois chercher cette perfection dans ton acte. Et le cœur oriente les autres membres vers la bonne direction. C'est pour cela que un des plus importants messagers d'Allah, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, nous dit que le plus important acte qu'on doit assurer, c'est la sainteté du cœur, la bonté du cœur. Il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où rien ne te sera utile, si ce ni tes biens, ni tes enfants, c'est des exemples, ni autre chose que si tu viens vers Dieu, tu viens vers Dieu avec un cœur sain. La man atallaha bi qalbin salim. Sauf celui qui vient vers Dieu avec un cœur sain. Donc, la sainteté du cœur est un devoir en islam. Beaucoup de musulmans, hélas, ne font pas attention aux actes du cœur. Tu peux trouver la personne qui insiste sur des détails de la religiosité. Mais, lorsqu'il s'agit d'actes du cœur, elle les néglige. C'est une grave erreur. Quelqu'un peut faire attention à la forme de la prière. Où mettre les mains, comment faire la prosternation, comment être droit, comment mettre les pieds. C'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Et cette personne même peut négliger l'essentiel, par exemple la concentration, le recueillement, le khushu', réfléchir à la parole qu'on est en train de lire. Car si tu es entre les mains de Dieu, tu es en train de l'adorer, et tu ne penses pas à lui, et lui il t'observe, il sait que ton cœur s'adresse à autrui, il ne s'adresse pas à lui, tu es avec ton corps entre les mains de Dieu, tu as dit Allahu Akbar par exemple dans la prière, tu as dit Dieu est grand, il n'y a pas plus grand que Dieu, mais lorsque tu prononces cette parole, ce mot, il y a plus grand dans ton cœur que Dieu. Il y a tes affaires, il y a peut-être tes enfants, il y a peut-être un intérêt financier ou autre chose qui s'est installé dans ton cœur et qui a pris la place à Allah. Est-ce que c'est l'adoration voulue par Allah? Non. Allah, il observe. Et il observe tout d'abord les cœurs. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous attire notre attention à cette vérité. Il nous dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dieu n'observe pas ou ne donne pas d'importance à vos images, à votre aspect extérieur, ta couleur, ta langue, hein, tu es un arabe, tu es un algérien, tu es un marocain, tu es un français, tu es un allemand, tout ça c'est, aux yeux de Dieu n'a pas grande importance. Tous on est des êtres humains. Aux yeux de Dieu, tous, on est pareil. L'égalité absolue se réalise dans le regard de Dieu. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Yanzuru ila qulubikum. Est-ce que le cœur est pur? Est-ce que le cœur est saint? Est-ce qu'il est bon? Quelqu'un qui jeûne, par exemple, ou bien qui fait l'aumône légale, zakat, ou bien qui va à l'Hajj, pèlerinage à la Mecque. Mais le sens de cette adoration est absent de son acte. Il fait le jeûne et dans son jeûne, il n'y a pas réellement l'adoration de Dieu. Il dit, c'est pour mincir. Hein? J'ai pris du poids, je vais jeûner. Il va s'abstenir de la nourriture, mais est-ce que, aux yeux de Dieu, c'est le jeûne voulu? Non. Pour que ce soit le jeûne voulu, il doit s'adresser avec son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'insistance sur cet acte. Quelqu'un va au Hajj, pèlerinage, mais seulement pour que les gens parlent de lui. C'est un Hajj. Ah, masha'Allah, il est pèlerin. Mais est-ce que tu as satisfait Allah dans cette pratique? Lorsque tu donnes la zakat, est-ce que tu donnes aux pauvres et tu vas, ah, c'est moi qui l'a aidé, c'est moi qui l'a soutenu, c'est moi qui l'a... Il n'y a plus de sens. Donc il faut réfléchir le sens des adorations dans cette perspective ou cette dimension de l'importance de l'acte du cœur et qu'il est le moteur de toute adoration. Certaines personnes acceptent d'adorer Dieu lorsque l'adoration correspond à sa personnalité. Par exemple, la prière. Si c'est salat al-dhuhr, au milieu de la journée, ou bien l'asr ou le maghrib, l'isha, c'est bon. Il fait attention à sa prière. Mais quand il s'agit de la prière du matin, salat al-fajr, c'est lourd, c'est difficile de se lever le matin. Et là, ça ne correspond pas. Ça devient lourd. Hein? Et il la néglige. Hein? Il passe toute sa vie à prier le Fajr après le lever du soleil. Comme si c'est lui qui fixe le rendez-vous à Dieu. Dieu lui dit, tu dois venir me parler, me prier, m'invoquer avant le lever du soleil, mais lui, il ne prête pas attention à ce rendez-vous, à cette demande. Chaque fois, chaque jour, chaque mois, chacun, c'est pareil. Est-ce qu'il adore Dieu à sa guise? Dieu n'accepte pas qu'on l'adore lorsque l'adoration va avec nos envies, va avec ce qu'on aime, qu'elle est seulement dans notre intérêt. Il veut voir de son serviteur qu'il l'adore dans tout et qu'il fasse l'effort d'exprimer sa soumission volontaire dans tout ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'est pas le serviteur de Dieu dans le jeûne, le ramadan, mais la prière, non. Il ne veut pas prier. Quand il vient le ramadan, c'est bon, parce que ça devient folklorique, hein? Il y a des fêtes, il y a une ambiance, sans plus, mais lorsque le ramadan nous quitte, il oublie Dieu. Comme si Dieu n'était pas présent et ne lui a pas ordonné de l'adorer dans toute sa vie. Il dit dans un verset clairement, « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit, donc c'est une déclaration. Dit, lorsqu'il utilise ce verbe, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que cette question soit connue et répondue. Que tout le monde sache ce qui va être annoncé. Dit, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna. C'est dans l'arabe, inna, c'est une affirmation. C'est-à-dire, on utilise cet article pour repousser toute hésitation. Quand quelqu'un doute, tu fais appel à cet article. Tu dis inna. C'est pour cela, par exemple, il ne dit pas qul inna Allah huwa ahad. Inna Allah huwa samad. Il ne dit pas ça. Dans Sourate l'Ikhlas. Car il ne parle pas aux gens. Il parle à personne. Il dit Hu Allahu Ahad. Avant vous, avant votre existence, il est l'unique. C'est une déclaration avant la création. Qul inna salati, ceux qui doutent de mon adoration, je déclare mes prières. Mes sacrifices. Mes sacrifices. Ma vie. Ma mort est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne lui associe en aucun cas autrui. C'est une volonté d'exprimer sa soumission totale à Dieu. Cela montre que l'individu est dans cette vie pour satisfaire son Créateur. Et cette volonté de satisfaire Dieu libère l'homme. Le libère de toute influence. Le libère de tout contrôle. Le libère de tout, toute manipulation. Il devient un homme libre. C'est pour cela que la ilaha illallah, cette attestation de la foi, cette parole par laquelle on devient musulman, signifie la négation de toute soumission, si ce n'est que la soumission à Dieu. Tu n'es pas fait pour être soumis. Tu es fait pour être libre. L'homme est le maître dans l'univers. Ce n'est pas le maître de l'univers, c'est Dieu le maître de l'univers. Mais l'homme est un maître dans l'univers. Tout tourne autour de l'homme et lui doit s'adresser à Dieu. Donc, il ne doit pas être dépendant de ses faiblesses, de ses envies, de ses passions. Il doit aller vers sa liberté. Comment acquérir sa liberté s'il n'arrive pas à se soumettre à Dieu? Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu veut ton bien. Il sait quelles sont les choses qui peuvent te mettre dans la faiblesse, qui peuvent nuire à ton intérêt. C'est pour cela qu'il te dit, fais ça, ne fais pas ça. Adore-moi, et cette adoration, ce n'est pas une réponse qui servira Dieu, mais c'est une réponse qui servira l'adorateur, l'individu lui-même. lorsque il te dit ne mens pas, lorsqu'il te dit ne vole pas, lorsqu'il te dit ne sois pas injuste, ni envers toi-même, ni envers autrui, il est en train de se protéger lui. Tu ne peux pas l'atteindre. Il est en train de te protéger. Il est en train de protéger les autres. Lorsque, un exemple que je donne souvent, lorsqu'il dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu rajoutes un seul mot à la révélation que je ne t'ai pas autorisé de dire, tu seras puni. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ وَلَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ وَمَا مِنْكُمْ عَنْهُ مِنْ أَحَدٍ حَاجِزِينَ. Il lui dit, personne ne peut te protéger si tu transgresses cette limite, cette frontière. Mais cette frontière que Dieu a définie, c'est pas pour qu'il soit protégé, subhanahu wa ta'ala, mais c'est une frontière qui protège l'homme. Et toute la loi doit être comprise dans ce sens. Elle sert l'homme. Toute loi qui ne sert pas l'homme ne peut pas être prescrite par Dieu. Seulement, l'homme doit comprendre, doit réfléchir, doit travailler son esprit, sa raison, afin de comprendre les finalités et les sens profonds de ce que Dieu a prescrit. Car souvent, c'est l'homme qui nuit à lui-même en interprétant mal les textes. Un exemple, une personne est venue saluer une autre. Et la personne l'a salué, mais sans trop lui prêter, on va dire, attention, ni lui offrir un sourire. L'autre, il a dit, tu dois appliquer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la sunna du prophète, il lui dit? Il lui dit, le prophète a dit, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Souriez pour ton frère lorsque tu le rencontres. Et sadaqa, sadaqa, c'est un don. Et donc il était un peu tendu parce que l'autre n'a pas fait ce don. Mais c'est une question de mal compréhension. Car c'est un don, ce n'est pas un devoir. Il n'est pas obligé de te sourire. Pourquoi il doit te sourire? C'est un don, il a dit sadaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un vient obliger une autre personne à faire un don de l'argent? Il ne veut pas te donner de l'argent. Tu ne peux pas lui dire pourquoi tu ne donnes pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, c'est une question de compréhension. Vous savez, c'est un exemple qui montre que l'approche des textes est importante. Des fois, on pense adorer Dieu, mais on n'est pas en train de l'adorer. Parce que on a mal compris. D'où l'importance d'apprendre sa religion. D'apprendre l'islam. On nuit à l'islam par notre ignorance. Par notre mal compréhension. On interprète les textes
de façon mauvaise. Et donc on pense adorer Dieu, mais non. Une fois, l'imam Abu Hanifa, le grand juriste, on raconte que les gens de Koufa sont venus l'interroger, lui poser une question, lui ont dit, « Ô imam, que penses-tu du sang de la moustique ? Est-il pur ou impur ?» Qu'est-ce qu'il répond le chef, le grand imam ? Il dit, « Vous tuez !» L'imam al-Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous n'êtes pas posé la question. Et vous venez poser la question sur le sang de la moustique. Il y a un problème dans votre compréhension de l'islam. Tu veux adorer Dieu en évitant le sang de la moustique, mais tu vas égorger le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça c'est adorer Dieu? C'est pour cela qu'il t'a créé Dieu? Non! Le problème il est dans ta façon de comprendre le message de Dieu. Et souvent, c'est le cas. On pense adorer Dieu, mais non. Ceux qui disent on va vers le rappel de Dieu, zikrullah, masha'Allah. Après, il n'y a pas de zikrullah comme il se doit. Seulement c'est la musique, le chant, la danse. Et tu dis c'est zikrullah. Où est le zikrullah? C'est toi qui inventes la façon par laquelle tu invoques Dieu, ou c'est le prophète qui t'enseigne comment adorer Dieu? Donc, ce qu'on appelle chez les juristes al-bida, c'est-à-dire l'innovation, c'est penser adorer Dieu, mais par une manière, une façon qui n'a pas été enseignée par le prophète, qui n'a pas été apportée et transmise par nos savants. Donc, des individus qui vont lire des livres sans avoir les outils de comprendre les livres, parce qu'il y a de la technicité dans l'écrit des savants. C'est pas n'importe qui va prendre un livre de droit, il va l'appliquer. Il faut être juriste. Tu ne peux pas opérer un malade sans que tu sois attesté que tu es médecin. Chacun, donc, doit faire attention à la compréhension de l'islam. Les premiers qui se sont égarés, qui sont devenus des sectes, qui ont combattu et même osé tuer et assassiner des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib et autres, des grands compagnons. D'où est venu leur problème? Ils pensaient adorer Dieu. Ils pensaient réaliser la fin pour laquelle ils ont été créés. C'est ça ce qui passait dans leur tête. Mais le problème ne vient pas de leur sincérité. Il vient de leur compréhension. Ils étaient sincères. Ils voulaient adorer Dieu. Ils voulaient se soumettre à Dieu. Ils avaient cet amour de Dieu. Mais le problème, ils n'avaient pas compris comment adorer Dieu. Donc on n'adore pas Dieu comme on veut. À notre guise, on l'adore comme il veut. Et pour savoir qu'est-ce qu'il veut, il faut apprendre l'islam. Apprendre l'islam de qui? Aujourd'hui, on a certains qui nous disent l'islam ils définissent un islam que les musulmans, ça fait 14 siècles, ils ne le connaissent pas cet islam. C'est leur islam à eux. Il te dit, l'islam pour moi. Oui. Si chacun fait son islam, on n'a pas... Mais dire, c'est ça l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce qu'a enseigné les compagnons, les grands ulamas. Tu trouves que c'est pas ça? Hein, il nous dit, consommer les boissons alcoolisées, oh, c'est pas haram. Oh, je pense pas, c'était pour une période. Oui, tu as le droit de dire ça. Mais tu dis pas c'est l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dis, c'est ton islam, oui. Quelqu'un, il va dire, oh, le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le sceau des prophètes. Non, c'est possible qu'il y a d'autres prophètes qui vont venir. Peut-être il préconise qu'il va être un prophète lui aussi. Et on ne définit pas l'islam à notre guise. Il faut respecter le travail de la transmission des savants dans toute la terre, durant tous les siècles. Cette approche est très importante. Aussi, il ne faut pas avoir une exclusivité et un monopole de la compréhension de l'islam. Lorsqu'on dit il faut respecter les savants de l'islam, on ne veut pas dire il ne faut pas critiquer les savants de l'islam. Critiquer au sens savant, c'est-à-dire on a le droit de ne pas partager leur opinion. Mais lorsqu'ils se réunissent tous durant tous les siècles sur un avis, cet avis est le produit de consensus. Il ne peut pas, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas se tromper. Il faut, dans ce cas-là, dire peut-être c'est moi qui a mal compris. Je viens après 14 siècles dire quelque chose que tous les savants de l'islam avant moi ne l'ont pas compris. Ou bien je suis le nouveau prophète, le génie, hein? Ou bien je m'accuse. Et je dis, j'essaye de revoir la question. Peut-être que j'ai mal compris. D'où l'importance aussi de faire attention à ce qu'on lit. Aujourd'hui, la bibliothèque musulmane, même en français, francophone, est immense. Il y a plein d'écrits. Et tout le monde écrit, parce qu'il y a du business derrière. Il y a de l'argent, il faut le dire. Une personne qui n'a jamais suivi un cursus d'études islamiques, il va traiter des questions de spécialité. Comment, avec quelle audace, mais c'est la réalité. Parce qu'il sait que il y a derrière des gens assoiffés du savoir. Ils veulent, et donc ils mettent l'argent pour apprendre. Mais ce que je dis à ceux qui cherchent à apprendre, qu'ils fassent attention. Quand tu es malade, tu fais attention. Tu ne vas pas à n'importe quel médecin. Bien qu'ils sont des médecins. Mais malgré ça, tu cherches le plus compétent. Alors, quand il s'agit de ta religion, tu ne veux pas faire cet effort. Pourquoi? Tu acceptes de n'importe qui. Ah, il m'a dit le frère. Elle m'a dit la sœur. Il dit, mais qui est ce frère? Qui est cette sœur? Où elle a appris? Qui l'a attesté? Quels sont ses diplômes? Est-ce que ta religion n'a pas d'importance pour toi, pour que tu cherches que la facilité? Ils m'ont dit. Ils m'ont répondu. Qui? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ça. Et il va... Ah non, fais attention. La raison, c'est le don divin le plus cher à l'homme. Cet esprit qu'Allah nous a donné et qui il nous a distingué par cet esprit, par cette raison, de toutes les autres créatures. Il faut s'en servir convenablement, comme il se doit, pour qu'il réponde à la finalité voulue. Donc pourquoi l'homme, Dieu l'a créé, c'est pour l'adorer et l'adorer lui seul. Certains peuvent adorer Dieu, mais avec cet amour, avec cette... Mais aussi, ils peuvent mélanger dans cette volonté de satisfaire Dieu, satisfaire autrui. Tant que la satisfaction d'autrui n'est pas dans l'échelle de ses priorités la plus importante, cela est permis. Par exemple, quelqu'un veut faire le hajj. Mais en même temps, il dit, je vais ramener un cadeau, hein, ou bien de l'eau zemzem pour ma mère. Elle sera contente, elle ne peut pas aller là-bas. C'est une bonne intention. Donc, tant que cette intention se situe au-dessous de la satisfaction de Dieu, cela est permis et même recommandé. Lorsque l'intention va à l'encontre de la satisfaction de Dieu, ou elle est mise au même niveau, au même degré que celle destinée à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah refusera et rejettera et il n'acceptera pas. Et dans certains cas, lorsqu'il s'agit de ce qui lui est spécifique, c'est-à-dire ce qui relève de la divinité, il ne le pardonnera pas. Il te punit. Donc, il y a dans le sens de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala un sens de chercher à satisfaire Dieu et à combler la vie par l'intérêt de l'homme en général. Youssouf alayhi salam, le prophète, on l'a emprisonné injustement. Et un jour, ceux qui l'ont mis à la prison l'ont sollicité pour les aider. Il n'a pas fait de chantage. Il n'a pas dit, et ce n'était pas des musulmans, c'était des non-musulmans. Il n'a pas fait du chantage. Il n'a pas dit, je ne vous aide pas parce que vous m'avez emprisonné, parce que vous me devez une indemnité. Non. Il a dit, je vais vous aider. Donnez-moi le poste de décider ma politique économique, parce que c'est une question économique, et je vous sortirai de cette crise économique. Et il les a sortis de la crise économique. Pourquoi ? Parce qu'il agissait comme musulman. Parce que le mot musulman ne concerne pas que nous, c'est-à-dire la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Musulman veut dire celui qui a choisi librement et volontairement de se soumettre à Dieu et à Dieu seul. Ça peut être, c'est Adam, c'est Nuh, c'est Idris, c'est Moïse, c'est Jésus, c'est Abraham, c'est tous les prophètes. Tous les compagnons des prophètes sont des musulmans. Et cette appellation est divine. Huwa sammakum al-muslimina min qabl. C'est Dieu qui vous a nommé musulmans. Donc Youssouf alayhi salam, il agissait pour le bien absolu. Il n'avait pas de calcul. La valeur du bien est une valeur absolue. Adorer Dieu, c'est s'attacher à cet absolu dans la vie. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, bon, c'est un musulman, je ne vais pas le voler. Mais si c'est un non-musulman, je vais le voler. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, c'est un musulman. Le prophète a dit, man ghasha falaysa minna. Celui qui triche ne sera pas parmi nous. Ne fait pas partie de ma communauté. Je ne le reconnais pas. Alors tu vas dire, oui, moi je ne triche pas quand ça concerne les musulmans. Mais quand ça concerne les non-musulmans, je triche. Ce n'est pas l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je trahis. Non, tu ne trahis pas. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en conflit, en guerre avec ses ennemis. Il venait chez lui et il déposait leurs biens chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il le garde pour eux. Et le prophète ne disait pas, bon, c'est mes ennemis, ils m'ont laissé l'argent, ils ont mis même leur or, leur diamant, je vais les prendre. Et comme ça, je vais l'utiliser contre eux et je vais acheter des armes. Non. Il n'a pas pensé comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que il nous enseigne les vraies valeurs de l'islam. C'est une valeur absolue. Ne trahis jamais. Celui qui a mis sa confiance en toi, tu ne le trahis jamais. Ça, c'est l'islam. Même si tu es en guerre avec lui. يُعْقَدُ لِوَاءُ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le jour du jugement dernier, il y a un drapeau sur lequel est écrit les traîtres. Et ils sont appelés, l'un après l'autre. Venez sous ce drapeau, les traîtres. La Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une Ummah de trahison. Donc, il y a des valeurs dans l'adoration de Dieu. Il ne faut pas penser l'adoration comme un devoir. Je m'acquitte de ce devoir et c'est bon. Non, il y a des valeurs qui sont portées par l'adoration. Et l'harmonie dans les sociétés, lorsque l'individu respecte cette adoration de Dieu, va être assurée. Le chrétien, le juif, autre, vivez à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une harmonie. Chacun connaissait sa place. Chacun respectait l'autre. D'où venait ça? Parce que les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des bons musulmans qui portaient des vraies valeurs de l'islam. Le commerçant qui a répandu l'islam en Afrique. Vous savez, il n'y avait pas une conquête planifiée. Ça n'existe pas, ça. C'est du mensonge qu'on attribue à l'islam. Ça n'a jamais existé. D'ailleurs, les plus grands historiens, même occidentaux, n'expliquent pas, il n'y a pas de conquête musulmane. Il n'y a pas un système de propagande religieuse en islam. Il n'y a pas. Les gens, l'islam ne convertit pas les gens. Les gens se convertissent par eux-mêmes à l'islam. On n'a pas un ministère de propagande. On paye des gens, allez-y dans cette ville, allez-y dans ce pays, allez. On n'a pas ça, nous. On n'a pas. On va pas chez des pauvres, je vais te donner la zakat, mais tu te convertis à l'islam. Il n'y a pas ça. On n'a pas de ça du tout. L'islam est un choix d'individu. Car même si tes parents sont musulmans, et toi, tu n'as pas choisi l'islam. Tu ne seras jamais un musulman aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui est important. Ce qui compte, c'est Dieu. Tu peux te montrer comme le plus grand musulman. Mais dans ton cœur, l'acte du cœur, tu n'es pas convaincu. Dieu sait cela de toi. Il n'acceptera pas cet islam. Parce que tu n'es pas un vrai musulman. C'est le choix d'individus. Je disais, ce commerçant, ce n'est pas il triche, il arnaque les gens et tout, et après il leur dit soyez musulmans et l'islam. Non. Il se comportait selon ses valeurs, son complexe. Et les gens se posaient les questions. Comment vous êtes comme ça? D'où vous tirez cette éducation? Ils ont commencé à chercher. C'est l'islam. Nous, on était des Arabes. Omar ibn Khattab enterrait sa fille vivante. Fabriquer son dieu par des dattes. Hein? Et quand il avait faim, il commençait à manger son dieu. C'est ça qui était Omar ibn Khattab. Mais l'islam l'a transformé. Il y a des jeunes dans des cités qui sont ils touchent à tout. Tous les interdits, ils ne les connaissent pas. Et du jour au lendemain, parce qu'ils ont rencontré l'islam, ils ne vendent plus la drogue. Ils ne boivent plus l'alcool. Ils n'agressent plus les autres. Ils ne cassent pas ils ne touchent pas ce qui n'est pas à eux. Tout ça, d'où? Parce qu'ils ont compris que l'islam, Dieu n'aime pas ça, n'aime pas le mal, n'aime pas qu'on agresse les autres, il n'aime pas qu'on touche au bien des autres. Parce que tout simplement, le prophète sallam dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. » Nul parmi vous ne sera un parfait croyant avant qu'il aime pour autrui ce qu'il aime pour sa propre personne. Et l'imam Nawawi, dans le commentaire de ce hadith, dit li akhi, pour son frère, le mot frère utilisé, il dit ça englobe le non-musulman aussi. Ce n'est pas le frère seulement dans la religion, c'est le frère dans l'humanité. Tout être humain, tu dois lui aimer le bien. Car Dieu aime le bien en lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste de voir des gens vivre malheureux. Voir des nécessiteux, des pauvres qui n'arrivaient pas à leur faim. Lorsque il mettait deux cailloux, hein, deux pierres sur son ventre, sallallahu alayhi wa sallam, de faim. Il pouvait, parce qu'il était le leader de la Oumma. Il pouvait exiger toutes les richesses, sallallahu alayhi wa sallam. Mais non. Il sentait, sallallahu alayhi wa sallam, la réalité des gens. Il était proche. C'est une valeur. Lorsque Dieu nous interdit le gaspillage, ça veut dire quoi? S'il nous enseigne le partage, au lieu de gaspiller ce que tu n'as pas besoin, il y a d'autres nécessiteux qui ont besoin de cette... Pourquoi tu les prives? C'est de l'égoïsme. Donc, il vient te combattre cet égoïsme. Pensez qu'à soi. Non! Tu ne vis pas que pour toi. Car les choses peuvent changer. Tu peux te trouver dans les mêmes circonstances que telle ou telle ou telle personne. Réponds par ton comportement adoratif d'Allah subhanahu wa ta'ala les valeurs humaines et tu seras protégé. Lorsque tu tomberas malade, tu trouveras celui qui vient te rendre visite. Parce que tu as appris qu'il est très récompensé de visiter un malade. Il est très récompensé par Dieu de soutenir un pauvre. c'est des valeurs qui vont être véhiculées dans la société. C'est pour cela qu'il ne faut pas comprendre l'adoration comme un aspect extérieur superficiel. Le hadith du Prophète sallam nous dit « Awwalu ilmin yurfa'u al-khushu'. » La première science qui va être élevée, c'est-à-dire qui n'existera plus, c'est al-khushu'. Al-khushu', la concentration, le recueillement, c'est l'essence. Ça devient une pratique banale. Muslim, oui, masha'Allah, il vient à la mosquée, il lit le Coran, il fait sa prière, mais le sens de tout cela est absent. Pour répondre à la question « Pourquoi je suis créé ? Je suis un homme ?» Je dois faire attention à ces sens. Je ne dois pas m'attacher uniquement au superficiel, à cet aspect excessif. Il est important, il a sa place. Ne va pas me dire, comme certains dans l'histoire ont dit, nous on fait ni prière, ni jeûne, ni zakat, ni hajj, ni rien du tout. On a rencontré Dieu, on est illuminé, on est des grands mystiques, hein? Les interdits, c'est pour les gens ordinaires. Au contraire, nous, lorsqu'on boit un verre ou deux, ça nous met dans une extase. Ils commençaient à philosopher, à créer leur environnement, à créer une religion à leur guise. Hein? À se débarrasser de la pratique, de la loi, de cette voie. Il s'appuie sur un verset, il disait وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Adore Dieu jusqu'à que tu reçois la certitude. الْيَقِينَ. Donc nous on est certain que Dieu existe, on est certain que Dieu est bon. Et donc il n'a pas besoin de notre adoration. On ne l'adore plus. Ce n'est pas la compréhension de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et de savants musulmans. Car lorsque un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait toute sa nuit à prier, toute sa nuit, vous imaginez, et c'est quelqu'un de responsable, c'est-à-dire la journée il avait des fonctions importantes d'état. Jusqu'à ce qu'il saigne de ses pieds. Et sa fille remarque le sang qu'il commençait à. Elle lui dit, mais tout doux, papa, tout doux, Dieu ne t'a pas tout pardonné, tu es la meilleure des créatures de Dieu, pourquoi tout ça? Quelle était la réponse de Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, ne serais-je pas reconnaissant? Ne dois-je pas être reconnaissant? S'il m'a tout pardonné, il m'a tout donné, il m'a choisi, il m'a élu, il m'a honoré, il a associé mon nom à son nom, la ilaha illallah, Muhammad Rasul, tout ça. Ne dois-je pas être reconnaissant? C'est ça la compréhension. Si tu atteins la certitude, tu dois être reconnaissant. Mais la certitude ici, tous les commentateurs du Coran, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement après, disent la certitude, c'est la mort, c'est la chose qui est certaine pour tout être humain. Tout le monde reconnaît ça. Et tu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore Dieu jusqu'à ta mort. C'est ça la certitude. C'est-à-dire, ne cesse jamais de l'adorer, car tu es ici, dans cette vie, pour cela. Deux autres fonctions de l'homme répondent à sa création. Donc l'adoration, on l'a cité, on l'a expliqué, parce que c'est la principale. Quand elle est réalisée, il y a deux résultats qui répondent à cette question. Le premier, c'est l'istimar. C'est-à-dire quoi? L'istimar, ce n'est pas la colonisation, hein, pour les arabisants qui ont traduit ça. Hein. L'istimar, dans le vocabulaire coranique, veut dire chercher à construire la vie, à construire le bonheur, à bâtir les moyens, les outils qui réalisent le bonheur de l'être humain. Dieu, il nous a demandé de réaliser ce umran. Il y a dans le umran la racine de amara. Amara, c'est-à-dire il l'a rempli, mais durablement. Car il y a le sens de umr. Umr, ça veut dire la vie, hein, l'âge, la continuité. Donc l'homme ne doit pas cesser de bâtir la terre. C'est-à-dire construire le bien et bâtir le bonheur. C'est le deuxième, la deuxième fonction pour laquelle l'homme est sur terre. Donc il n'est pas là pour la détruire. Et subhanallah, un grand message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, durant 23 ans de sa fonction prophétique, la Kaaba, la demeure de Dieu sur terre. C'est comme ça, Baytullah, il est nommé dans le Coran. Et rempli de plus de 360 statues, idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne touche pas à la Kaaba. Jusqu'à que sa femme, Aïcha radiallahu anha, lui dit, quand il a eu le pouvoir sur la Mecque, ça y est, c'est le grand patron de la Mecque. Il dit, il signe, on va dire, avec son œil, la destruction, elle est anéantie la Kaaba. Mais non, pourquoi ça c'est là? Il la laisse. Quand il vient le jour, c'est les gens eux-mêmes. Il n'a jamais dit, écoutez bien cette remarque, lisez tous les textes, il n'a jamais ordonné de casser les statues. Les gens eux-mêmes ont cassé les statues. Parce qu'ils se sont rendus compte de leur grave erreur. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est des statues qu'on fabrique et qu'on les rendait comme des seigneurs et des maîtres de ce monde. Où était notre raison? Eux-mêmes, d'eux-mêmes, cherchez tous les textes prophétiques. Si vous trouvez un seul texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, quand il a ouvert la Mecque, de détruire les statues. Il n'a rien. C'est les gens d'eux-mêmes. C'est une réalité. Toutes les statues ont été sorties, elles ont été cassées, détruites. Mais par l'homme, quand il s'est senti libre, c'est comme quelqu'un qui était enchaîné et à un moment, il se réveille, il se trouve libre. Qu'est-ce qu'il va faire? Cette chaîne, il va la casser. Sans qu'on lui dise « casse la chaîne ». C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était en train de nous enseigner qu'on doit remplir la terre par la construction, pas par la destruction. Le musulman ne détruit, c'est pas quelqu'un qui va mélanger avec la construction la destruction. Il construit le modèle et les gens eux-mêmes prendront la décision qu'il faut, librement. Troisième fonction, pour ne pas trop tarder, c'est l'istikhlaf. واستخلفكم فيها إني جاعل في الأرض خليفة. Je vais mettre sur terre Khalifa, un lieutenant, un représentant. Mais il n'a pas dit, il représente qui? L'homme. Le Coran n'est pas explicite. Il ne nous dit pas il représente qui, il dit un khalifa, c'est-à-dire un représentant. Il représente quoi? Il représente qui? C'est laissé à l'homme de réfléchir. Il ne lui dicte pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être khalifa du shaitan. Quelqu'un, il remplace dans sa fonction shaitan, le démon. Il ne pense qu'au mal. Il respire le mal. Il répond le mal. Pourquoi? Pourquoi? Donc, ce choix est à l'homme. Je représente qui? Dieu, qui est la vérité absolue. Dieu, qui nous a enseigné les belles valeurs. Ou bien, non. La question de la morale, de l'éthique, c'est l'argument des faibles. Parce que t'es pauvre, tu parles du partage et du don. Mais lorsque tu deviens riche, tu ne penses plus à ça. Parce que t'es faible, physiquement, tu dis qu'il ne faut pas agresser, il ne faut pas frapper, il ne faut pas... Mais si tu avais 1m90, là tu aurais été un tyran. Donc, expliquer la morale que par le besoin, cette philosophie qui existait, un courant philosophique qui est connu en Occident aussi, ce n'est pas ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Non. Lorsqu'il est entré à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le pouvoir. Personne ne discutait le pouvoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne mettait en question son autorité. Il leur dit, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous pensez que je vais vous faire? Et donc, bon, c'est toi une décision nous met tous à la morgue. Qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam? Ils disent, Akhun Karim wa ibn Akhin Karim. Tu es quelqu'un de généreux. Et tu descends de personnes ou de familles généreuses. On ne connaît que ça de toi. C'est la vérité. Ce qui a pris le dessus dans cet instant important de l'histoire, c'est la valeur. Ce n'est pas les querelles humaines. Ce n'est pas la vengeance. Vous m'avez chassé de ma terre natale, vous m'avez... Et c'est pas ça. Il leur dit, vous êtes libres. Idhabu fa antum at-tulaqa. Entrez chez vous, ne craignez rien. Je ne suis pas celui qui fera le mal. Celui qui cherche refuge auprès de Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'était son plus grand ennemi. Personne ne le touche. Il sera protégé. Il respecte les postes des gens. Il n'a pas dit Abu Sufyan, c'était lui la tête de mes ennemis. C'est lui le responsable de ça. Je vais commencer par lui. Non. C'est le pardon. C'est la générosité, c'est les vraies valeurs qu'il faut avoir dans la vie. Et c'est ça pourquoi on écrit. C'est ça être khalifa. Car est-ce que vous trouvez dans les attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala? Écoutez bien. Al-mu'adhib, il n'y a pas. C'est un acte. Ce n'est pas un attribut divin. Al-mu'adhib, ça veut dire celui qui châtie. Ce n'est pas un nom divin. Par contre, généreux, oui. Par contre, Rahman, miséricordieux, clément, le pardonneur, le Ghafour, le Wadud, tous ces, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Regardez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est le verset qui se répond le plus dans le Coran. L'attribut qui est le plus cité, c'est l'attribut de la miséricorde. Une fois, on était avec un de nos, on va dire, maîtres spirituels, dans un cours comme ça, et un jeune qui commençait à pratiquer l'islam, il disait, c'est quoi, Cheikh, tous ces gens qui combattent l'islam, c'est tous ces gens qui n'aiment pas l'islam, tous ces gens, il était en rébellion. Il voulait faire une révolution. Et donc, il faut les éliminer, tous ces gens, il ne faut pas baisser la tête. C'est comme ça que... Et là, la sagesse de ce maître, il lui dit, « Mon fils, quand est-ce que tu as commencé à pratiquer? Quand est-ce que tu as commencé à prier? Quand est-ce que tu as commencé à... » Il lui dit, en 82, il lui dit, « Prie Dieu, il dit, Alhamdoulilah, dit, louange à Dieu, car je n'ai pas pensé en 80 comme toi, sinon tu n'aurais pas été là. » Ne ferme pas la porte de Dieu. Ce n'est pas toi le maître de cet univers, c'est Dieu. Toi, tu es là pour réaliser ses volontés, ce qu'il veut Dieu. Dieu, est-ce qu'il veut châtier les gens, punir les gens, ou il veut les couvrir par sa miséricorde? Les entrer au paradis. Qu'est-ce que tu gagnes que les gens vont en enfer? Le prophète était triste. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ. Tu te rends malade, triste, parce qu'ils ne suivent pas la voie de la croyance. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les hommes. Aimait. Il ne voulait pas les punir. Il ne voulait pas les juger. Il voulait les épargner. C'est pour cela qu'il dit « Mefali wa mefalukum ». Mon exemple avec vous, c'est comme quelqu'un qui va tomber dans le feu ou dans... Et il ne voit pas. Et l'autre vient lui dire « Viens, viens pour ne pas... » Et lui, il fuit. Il va vers l'enfer. Est-ce que en voyant l'autre aller... En enfer, tu vas le laisser et dire, ouais, c'est bien fait, et tu rajoutes sur lui, et tu lui juges mal. Ou bien, tu lui tends la main doucement, et tu l'aides, et tu sois patient et tout. Si tu penses à son intérêt, si tu penses à ce que Dieu aime, tu ne vas pas être comme ça, tu vas être doux. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ma inna Allah yuhibbu rifqa fi kulli shay'. » Dieu aime la douceur dans toute chose. La douceur, c'est une des choses que Dieu aime. Il dit, مَا وُضِعَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ. La douceur n'a jamais été mise dans une chose sans qu'elle l'embellit. Et elle n'a jamais été enlevée ou supprimée d'une chose sans qu'elle la rend mauvaise. وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. Lorsqu'il envoie Moïse et Harun, vers qui? C'est des prophètes. Vers Pharaon. Celui qui a prétendu être Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a pensé autre chose, hein, ou qui a fait quelques bêtises. Non, il a voulu se mettre à la place de Dieu. Et Dieu ne pardonne pas ça. Il le dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu ne pardonne en aucun cas qu'on lui associe à autrui. Alors, celui qui prétend être lui-même Dieu, ça c'est pire, malgré ça. Quel est le conseil de Dieu pour Moussa et Haroun pour cette personne qui a prétendu être Dieu. فَقُولَا لَهُ اِذْهَبَا إِلَّا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Allez vers Pharaon, إِنَّهُ طَغَى. C'est une affirmation. إِنَّهُ طَغَى. Il a dépassé toute limite. Tara, c'est ça le sens de Tara. Il a dépassé toute limite. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit Allah? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Dites-lui une parole douce, layin, flexible, layin. Pourquoi? Subhanallah. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qui sait? Peut-être. Ça va le faire réfléchir. Ça va lui faire rappeler sa vérité, sa réalité. Qu'il a besoin de dormir, qu'il tombe malade, qu'il a besoin de se nourrir, qu'il va mourir. Donc, qu'il est venu de la même source que les autres. Comment est-il un dieu? Peut-être. Ça va lui frapper à la tête et il va réfléchir. Mais c'est fort le message. Donc, khilafakum fiha, la khilaf, hein. Ici, c'est une khilafa de valeur qu'on trouve dans les attributs divins qui sont portés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est comme ça. Donc il veut qu'on soit comme ça. Il dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Il vous est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, de votre Seigneur, un envoyé, un messager parmi vous. Vous le connaissez. 40 ans, il a vécu sans prétendre qu'il est prophète. Un homme ordinaire, comme les autres, seulement il a des qualités supérieures qui le distinguent. Il se distingue par ses qualités. Comment est ce messager? Azizun alayhi ma anitu. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dans sa façon d'être, dans son comportement, des qualités qui nous renvoient aux attributs divins. C'est pour cela qu'il est recommandé, comme disent nos savants, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. C'est-à-dire, comportez-vous comme Dieu se comporte avec vous. Dieu, est-ce qu'il nous a laissé le temps de revenir vers lui, de se repentir et de... Oui. Si chaque fois qu'on fait un grand péché, hein, ou un petit péché, Dieu nous juge et nous punit, personne n'aurait resté sur terre. Alors pourquoi ne pas suivre Dieu dans ce qu'il... C'est lui le grand maître. Donc, adorons Dieu dans cette compréhension. Car c'est ça les fonctions. Comme il dit Raghib al-Asfahani dans Zari'a, il dit, c'est les trois fonctions pour lesquelles l'homme a été créé. Ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui, c'est des savants du 3e, 2e siècle de l'Hégire. Ça fait 13 siècles. C'est-à-dire, c'est pour cela les musulmans d'avant ont été des modèles, ont illuminé la terre par leur sagesse, par leur valeur, par leur... Ils avaient cette compréhension. Et cette compréhension a été transmise de génération en génération. Alhamdoulilah, il y aura toujours des modèles et des exemples qui porteront cette lumière, qui porteront ces valeurs et qui vivront pour ces valeurs et qui mourront, inshallah, pour ces valeurs. J'espère que j'ai pu répondre, on va dire brièvement, à cette grande question selon la vision de nos savants musulmans, et qu'Allah nous guide toujours vers la voie de sa satisfaction, et barakallahu fikum.